Quelle formidable sonothèque du 19e siècle que la comédie humaine d'Honoré de Balzac. S'il faut la lire, il faut également l'entendre. Pour qui veut bien y tendre l'oreille, le roman balzacien fait jouer une trame sonore à plusieurs pistes. Employons le mot moderne, le mot piste. Sur la piste 1, les objets, les choses, les outils, les ustensiles, les vêtements de la vie, du plaisir et du travail. Sur la piste 2, les armes, les épées, les canons, les éperons, et dans la suite desquels je mettrai l'argent, les écus et le bruit de l'or. Piste 3, horloge, clocher, sonnette, cadran, toutes les déclinaisons de la cloche et de, qui vont de la grande campanile qui résonne au petit grelot qui tinte en passant par la bruyante sonnette pendue sous les portes cochères. Donc, piste 3, les cloches. Piste 4, le bruit des moyens de transport, les carrosses, les omnibus, les berlines qu'on entend chez Balzac, et celui des chevaux, et aussi, dans la foulée, chiens, poules, corbeaux, rossignols, soit un bruyant bestiaire qui meugle, qui aboie, qui hennit aux quatre coins de la comédie humaine. Piste 5. Appelons-la topophonie. Maison, plancher, salle, voûte, arcade, porte, fenêtre et escalier, soit toutes les vibrations du construit habitable que Balzac ne cesse de détailler, de relever, de noter, de narrer. Piste 6, les bruits de la nature, les sifflements, les grondements, les orages, les tonnerres. Piste 7, les mains et les pieds, à savoir cette podomanophonie dont les narrateurs balzaciens détaillent les échos lorsqu'un personnage marche, souvent pour apparaître dans le récit, ou lorsqu'il applaudit, ou lorsqu'il est applaudi, souvent pour disparaître du récit. Piste 8, il y en a 10. Piste 8, celle des contrepoints sciemment creusés dans cette trame bruyante pour mieux en faire goûter les saillies, à savoir les silences. Longs, courts, soupirés, patents, ils forment les blanches, les respirations au sein de cette complexe partition. Piste 9. Les bruits pulmoniques, un adjectif que j'ai trouvé chez Balzac, c'est-à-dire tous les sons du corps humain. Gémissements, battements, gémements, craquements, ronflements, baisers, soupirs et autres râlements, et dont le fameux « ah » de Saint-Joseph que lâche le père Goriot en tordant son bol de vermeil en pleine nuit, et qui font du corps humain, du corps souffrant surtout, un des résonateurs favoris de Balzac. Piste 10, la dernière, la plus importante, celle qui était consacrée sans doute au son préféré de Balzac, celui de la voix humaine. Les voix balzaciennes sont presque toutes en effet des audiographèmes, c'est-à-dire des traits qui identifient les personnages et qui en donnent la marque, aussi distinctive que celle de leurs vêtements, leur visage ou leurs habitudes, en ces voix que les personnages déploient selon une géométrie, une volumétrie toujours calculée, une sorte de proxyphonie par laquelle chacun se protège de l'écrasante surveillance ambiante qui règne dans le monde balzacien. Ces voix, enfin, qui scénographient une audiologie du désir. Car chez Balzac, l'éros passe souvent par l'oreille. La voix, pour reprendre la formule d'Henri Méchonic, la voix c'est du corps hors du corps. Et c'est souvent par ce très commode corps hors du corps que se rencontrent justement les corps. La passion érotique d'Eugénie Grandet pour son cousin Charles est entièrement audiologique. Idem pour celle de Sarrazine envers la Zambinella ou celle du général de Montriveau pour la duchesse de Langeais. 10 pistes donc qui répercutent jusqu'à nous le politique, l'économique, le philosophique, le scientifique, le militaire, l'urbanité, la spiritualité, la ruralité de la France post-révolutionnaire. Rien ne vit chez Balzac, pour citer Jean-Luc Nancy, sans se résoudre en vibration, car Balzac était vraiment doué d'une sensibilité étonnante à l'écologie sonore, pour reprendre une formule connue de Jean-François Augoyard. Notre petite communication de ce matin voudrait peut-être faire entendre un extrait, là j'ai écrit un sampling, je ne sais pas le mot m'est venu, un sampling, pour être moderne, de la piste numéro 1, hein, les objets. Et plus particulièrement, le bruit de deux objets qu'on entend beaucoup dans Balzac, c'est le bruit des vêtements, le bruit des robes et le bruit des éperons que les hommes portent à leurs bottes. Voyons voir ce que ça fait dans le texte. Les intérieurs balzaciens bruissent au rythme de plusieurs objets domestiques. L'objet qui se distingue de la chose naturelle, hein, le caillou, la branche ou le monceau de sable, et par les fonctions qu'il engage, les intentions qu'il contient, les volontés de puissance qu'il matérialise, hein, se multiplient dans l'économie industrielle du siècle numéro 19. Poussés par la machine à vapeur, les objets, écrit Martha Carayon, prolifèrent et l'on commence à entretenir avec eux des relations diverses et à se poser à leurs égards des questions nouvelles. L'objet au 19e siècle. Si les objets engagent à l'œil un examen attentif du monde sensible, ils apportent par leurs usages, au pluriel, hein, leurs usages, une gamme de bruits nouveaux qui, si l'on tend l'oreille, disent « oh » les liens dynamiques qui unissent l'homme à ses ustensiles et qui ponctuent le déploiement de ses habitus. Des travaux importants ont abordé la question de la représentation romanesque des objets. On pense aux travaux de Claude Duchet, par exemple, qui propose une approche socio-sémantique de l'objet. On pense également aux travaux de Roland Le Venen et de Paul Perron, qui ont proposé un véritable système des objets dans la comédie humaine, un système des objets qui veut montrer le réseau de signifiants que l'objet déploie dans l'espace du roman, appréhendé comme totalité signifiante, écrivent-ils. On pense encore, plus dans la critique balzacienne, aux travaux de Juliette Frolich, qui, elle, insiste davantage sur la valeur indicielle de l'objet dans la comédie humaine, sur leur valeur et leur fonction d'indice psychologique, sociologique et poétique. Et j'ajouterais à cette liste les travaux de Geneviève Sicotte elle-même, qu'elle a consacrés aux objets de luxe dans la littérature fin de siècle. Une analyse, toutefois, attentive à la sonorité des objets voudrait peut-être essayer de chevilliers ensemble ces différents plans de signifiance, souvent concomitants, voire simultanés. Entrons dans le texte de Balzac. Il y a une structure en tissu qui résonne au cœur des intérieurs balzaciens et qui concourt, à mon avis, c'est un peu la thèse que je vais développer, à cet encadrement permanent de la femme dans l'univers balzacien. Univers où les gestes de la femme, ses paroles, son corps, sont toujours pris en charge par une forme ou une autre de système autoritaire, que ce soit celui de l'état civil, celui de la cour, celui de la religion. Et l'objet qui fait le plus souvent entendre la présence du féminin chez Balzac est sans doute la robe, ce vêtement coercitif qui sert d'abord à marquer politiquement le corps de la femme et à en déterminer les mouvements. La femme est souvent annoncée par son vêtement qui va désigner aux autres le sexe d'un personnage sur le point d'apparaître, et cela avant son nom, avant sa fortune, sa parole et ses idées. La robe dit aux hommes, souvent aux hommes, mais pas seulement qu'aux hommes, nous allons le voir, que le féminin approche. Car le féminin, ne peut ni surprendre ni s'imposer, il semble. On exige de lui une préparation, un avertissement. La robe est-elle la crécelle de l'être femme? Elle sonne les dangers du continent sauvage qu'elle recèle. Exemple. Rappelez-vous de Raphaël de Valentin, qui a trouvé au lac du Bourget un paysage pur où il peut enfin respirer sans désir, lui qui meurt à cause de ses désirs. Mais les tentations de l'éros ne sont jamais loin chez Balzac. Et voici que Raphaël entend près de lui, je cite, le frôlement d'une robe. Même chose pour Célestin Crevel, en costume d'apparat, qui vient porter ses propositions libidineuses à la baronne Hulot, devant la glace du boudoir, pendant que la baronne ferme toutes les portes qui doivent conserver la privauté de cette conversation, L'ancien parfumeur se passe, écrit Balzac, lui-même en revue, quand tout à coup, le froufrou d'une robe de soie lui annonce la baronne. Fin de citation. Le son de la robe termine donc le court moment descriptif, sort le personnage de sa tête et initie le dialogue. Mais le son qui ouvre un dialogue dit déjà le sujet de ce dialogue à venir. Le maillet du juge, le coup de pistolet, le claquement de porte, les froissements de robe ne génèrent pas les mêmes échanges. On dirait que les sons préparent le contenu même des conversations. Les robes donnent le signal aux conversations qui débattent justement de ce qu'elles cachent. Le son de la robe signale l'envers, mot cher à Balzac, de ce dont les mots ne peuvent que parler par contournement et allusion à l'endroit public et surveillé de la bienséance et de la morale. Le vrai, souvent, est dans le son des choses et non dans les mots qui les désignent. Jules Desmarais, autre personnage balzacien, entend venir sa femme, Clémence, grâce, et je cite, au bruissement particulier aux robes de soie, écrit Balzac. Le bruissement particulier aux robes de soie. Mais l'énigme de cette robe particulière demeure entière car il apprendra bientôt que sa femme est la fille d'un ancien forçat, Ferragus. Et qui donc entend le baron Hulot, collectionneur de femmes s'il en est, au moment où il venait chercher auprès de sa cousine Bette le moyen de rencontrer la jolie Valérie Marneffe? Eh bien, l'objet de ces convoitises, précisément Valérie elle-même, annoncée, écrit Balzac, par le frôlement d'une robe dans l'escalier. Et le topo se répète lorsque le baron Caliste du Guénic attend la marquise Béatrix de Rochefide dans un salon de style sobre. La marquise arrive, mais elle arrive bien après, écrit Balzac, le froufrou d'une robe de soie. Le son qui prépare le spectacle de la blanche poitrine, des bras nus et des cheveux foisonnants que Béatrix fera jouer à l'œil du baron. Les murmures de la robe encadrent, contrôlent et polissent les désirs de ceux et celles aussi. Pensons à Paquita Valdez, qui les entendent, mais aussi de celles qui les portent. Louise de Chaulieu, chaperonnée par sa suivante, Miss Griffith, sa demoiselle de compagnie, rencontre nuitamment, dans un coin reculé de son jardin, le séduisant Felipe Eñares. Mais celui-ci devient hors de lui lorsqu'il entend se rapprocher le bruit de nos robes dans le silence de la nuit. Louise, pourtant, voulait seulement être seule avec lui, écrit Balzac. Autre exemple, il m'en reste deux. Au bal des lentilles, c'est au début de Sarrasine, rappelez-vous, le narrateur et la marquise de Rochefide entendent, avant de la voir, une femme dont la robe frémissait dans le silence. C'est qui? C'est Marianina, qui raccompagne son grand-oncle au fond de son réduit secret. À Clochegourde, au château des Mortsauffes, l'érotisme est affaire de souffrance, de peine et de répression. En dépit des forts gémissements du comte, en pleine crise, le jeune Félix de Vandenesse, assis sur la balustrade en briques, perçoit avec délice le bruit onduleux de la robe flottante d'Henriette qui revient vers lui. Toute la suite du récit consistera d'ailleurs à écraser le désir, à le châtier, à le reverser dans son contraire, c'est-à-dire la mort. Une métaphore acoustique annonce la punition d'Henriette, d'ailleurs, dans « Le Lys dans la vallée hein, », vous avez reconnu le texte. « Malgré le bruit onduleux d'une robe », écrit Balzac, « Félix entendit la contraction gutturale d'un soupir violemment réprimé. » Donc, les ondoiements du tissu disent ce que le monde interdit. Le corps de l'épouse doit se faire l'écho des souffrances du mari. Les sons expriment les rivalités qui opposent les désirs d'Henriette et les abnégations imposées par le dogme religieux. La robe dit ce que le gémissement interdit. Il arrive même que le bruit de la robe soit fracassant. Il y a des robes qui se déchirent à grand bruit dans Balzac. Exemple. Parce que son mari consomme toutes les ressources de la maison dans sa recherche effrénée pour découvrir l'absolu. Hein? Joséphine Claes, énième exemple chez Balzac de l'épouse qui expie les fautes de son mari. Hein, il y en a plein chez Balzac. Elle défaille. Et là, Balzac écrit. Balthazar prit aussitôt Madame Claes dans ses bras. Il ouvrit la porte qui donnait sur la petite antichambre et franchit si rapidement le vieil escalier de bois que la robe de sa femme, ayant accroché une gueule des tarasques qui formaient les balustres, virgule, il en resta un lait entier arraché à grand bruit. On imagine la scène du déchirement romantique de la robe qui se déchire dans l'escalier. Ce déchirement bruyant révèle ce que cachent inconsciemment toutes les robes chez Balzac. Un monstre, figuré ici par la gueule des tarasques, hein, cet animal fabuleux. Tout le roman de Balzac consiste peut-être à tirer cet animal fabuleux, le désir, de sous la robe, le social, qui le contient. Les bruits de robe parlent aussi, toutefois, à l'oreille des femmes. Madame Vauquer surprend un matin, dans l'escalier de sa pension, le mystérieux froufrou d'une robe de soie. C'est Delphine de Nucingen, née Goriot, qui rend visite à son père. Dina de la Baudreille comprend, elle, que sa rivale, Madame Schontz, vient de laisser Lousteau seul dans le salon lorsqu'elle entend s'éloigner le froufrou de sa robe de soie. Les femmes, donc chez Balzac, circulent dans l'espace en se guidant sur les signes acoustiques qu'elles se laissent les unes aux autres. Les bruits de robe ne sont pas destinés qu'aux seules oreilles des hommes. Ils sont de l'antichambre au salon, du boudoir à la chambre, des indices de géolocalisation par lesquels les femmes se surveillent mutuellement et calculent les balais de leur tête à tête. Les bruits de robe sont aussi des territoires de parole. Mais soyons prudents. L'œuvre de Balzac ne se laisse pas enfermer facilement dans le moule rigide d'une théorie parfaite. Un contre-exemple, toujours, vient contredire l'exégète et rappeler l'extraordinaire créativité de Balzac, qui n'hésitait jamais à penser, à dire, essayer chaque chose et son contraire. C'est la Cibot, l'empoisonneuse de Pons, qui nous donne son exemple. Lorsqu'elle entend, je cite, « le frôlement d'une robe » et le bruit d'un pas qui voulait se rendre léger. Est-ce qu'elle entend une courtisane? Non. Une rivale? Non. Elle entend un homme. Le froufrou de cette robe est celui de la vieille robe de chambre en calicot imprimé que porte l'avoué fraisier dans son bureau alors qu'il s'entretient avec la portière. Ce vêtement familier, usé, râpé et sans décorum, dit tout le mépris que l'avoué éprouve envers cette femme, la Cibot, et dont il finira par faire son instrument pour toucher l'argent du collectionneur célibataire. Les hommes aussi, chez Balzac, sont parfois trahis par les sons de leurs habits. La différence est toutefois du côté de l'intention. Si les robes bruissent, en dépit des volontés de celles qui les portent, les hommes, eux, dans Balzac, signifient volontairement leur présence politique, linguistique, économique, dans l'espace qu'ils occupent. Leur instrument de choix n'est pas la robe, mais l'éperon. Aux Tuileries, dans Les Illusions perdues, rappelez-vous, Lucien, hein, il s'est émerveillé par Paris, admire la jeunesse aisée de Paris, et ces élégants gentilshommes, écrit Balzac, qui ont à leurs bottes des éperons retentissants. La richesse, comme la puissance militaire, prend sa place dans l'espace public en recourant aux ressources acoustiques du fer. À la botte, sous forme d'éperon, ou à la main, sous forme d'épée, le fer crie la force de celui qui le porte. L'arrivée de Napoléon sur le carrousel est précédée, par exemple, d'un profond silence rompu seulement, écrit Balzac, par un bruit d'éperon et un cliquetis d'épée. Allons maintenant dans la salle de l'Auberge Rouge. Hein? C'est un de mes textes préférés de Balzac. Petite nouvelle qui s'appelle L'Auberge Rouge, qui se déroule à Andernach. Plusieurs officiers français, écrit Balzac, font là entendre le cliquetis de leurs éperons. Le fer parle haut. Montriveau, célèbre général Montriveau, qui cherche partout la duchesse de Langeais, il le sait. Sur l'île espagnole, où il vient enfin de retrouver Antoinette de Langeais après des années de recherche, il est heureux de se trouver seul dans l'église, écrit Balzac, et il fait, sans gêne, retentir les voûtes sonores du bruit de ses éperons. Il manifeste sa présence avec ses éperons. À la violence symbolique de l'église, qui enferme ses suivantes dans son silence implacable, le général oppose les sons de sa double violence, celle publique du militaire et celle privée du compagnon de la Société des 13. Je conclue avec une dernière phrase. C'est donc qui ouvre, c'est une dernière phrase qui ouvre sur autre chose, mais enfin, c'est ainsi que je vais m'arrêter. C'est donc souvent par le bruit des objets, celui des robes, qui appelle, gère d'une certaine façon, les désirs de l'autre, celui des éperons qui crie la violence disponible au cœur des hommes, que le roman balzacien cheville ses actions les unes aux autres et qu'il échappe au péril aussi du régime descriptif par lequel sa prose, la prose réaliste de Balzac, voulait donner un sens au monde.